Bonjour à tous, chers auditeurs. C'est fou, quand même, à quel point une maison est vide quand il n'y a plus cette âme qui la fait vivre. Même si on est content de la retrouver, une fois la porte franchie, on sent qu'il manque quelque chose. Alors oui, les quelques supporters qui ont garni les travées du stade Saputo et leurs chants nous ont fait chaud au cœur, tout comme le fait de revoir un match, même deux, de MLS à Montréal. Les résultats étaient mitigés, mais avouons-le sans surprise, et ce n'est pas pour ça qu'il n'y a aucun enseignement intéressant à en tirer, loin de là, et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui à coup franc. Mathias Van Alst au micro, et afin de savoir si les verres sont à moitié pleins ou à moitié vides, il faut évidemment les voir et les déguster, et pour déguster des verres avec nous, qui de mieux qu'Éric Chenois. Salut Éric.
Salut Mathias, effectivement je suis toujours partant pour un verre, c'est une chose certaine. Je vais bientôt abonder dans le sens de ta remarque d'ouverture, donc je n'en dirai pas plus. Alors passons à l'émission.
Passons à l'émission lors de laquelle il y aura aussi Quentin. Et Quentin, les verres sont à moitié vides ou à moitié pleins?
Ah, ils sont toujours pleins chez moi, vous le savez, monsieur, ils sont toujours pleins, monsieur Van Alst, les verres chez moi. En tout cas, je le vois toujours à moitié plein. Mais je voudrais aussi signaler que le parking, le stationnement du stade Saputo n'a jamais été aussi animé, outre les travées, mais c'est une petite nouveauté. J'avais rarement vu un stationnement aussi animé, on le doit aux ultras. Alors, je voudrais quand même les saluer parce que j'ai trouvé que ils avaient quand même mis une belle ambiance malgré le stade vide.
Effectivement, on sait, il y avait quand même eu de l'ambiance, et c'est vrai que quand je disais les supporters qui ont garni les tribunes du stade Saputo, je pensais aussi à ceux qui étaient juste de l'autre côté des grilles, ne les oublions pas. Il faut effectivement le souligner. Alors, toi Quentin, tes verres sont toujours pleins, je te plains. Parce que quand un verre est plein, on le vide. Et quand un verre est vide, on se plaint. Bon, commençons cette émission coup franc qui, comme vous le savez, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'ImpactSoccer.com, Vioparc et Québec Soccer. Et nous trinquons avec nos verres qui sont pour le moment pleins aussi à votre santé, chers auditeurs. N'hésitez pas à le faire avec nous si vous nous écoutez, à moins que vous soyez au volant. Auquel cas, ben, descendez de voiture. Bon, comme de coutume, la première gorgée de l'émission se boira d'une traite en un seul mot, qui, un mot M-O-T évidemment, pas M-A-U-X, qui cette semaine doit synthétiser ce qu'il y a à retenir des rencontres au stade Saputo face à Vancouver et Toronto. Alors messieurs, annoncez votre breuvage.
Eh bien, je vais continuer dans la thématique avec le mot vide, Mathias. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ces deux matchs. Mais à deux niveaux. Premièrement, évidemment, le niveau le plus évident, le stade vide. Mon Dieu, que c'était caverneux comme endroit. Quelle tristesse de ne pas voir ces tribunes pleines et animées. Et il faut le saluer. Il faut saluer les gens qui étaient là et qui ont quand même fait le maximum pour mettre de l'ambiance. Il faut aussi saluer les ultras qui étaient juste de l'autre côté des grilles, dans le stationnement ou à l'extérieur du stade, en fait. Et qui ont mis quand même beaucoup d'ambiance, surtout contre Toronto. Donc, on les salue, mais ce que je retiens, c'est le vide des tribunes. Mon Dieu, que c'était triste, ma foi. Et au deuxième niveau, vide pour l'attaque de l'Impact. Mon Dieu, c'était le vide sidéral face à Toronto. Ça s'est un peu mieux déroulé contre Vancouver, mais c'était difficile, c'était désorganisé, c'était un petit peu étrange par moment. Donc voilà, c'est mon mot pour cette semaine, c'est le vide.
Eh bien moi, mon mot est beaucoup plus joyeux parce que mon mot, ça est avenir. Moi, c'est ce que je retiens, c'est que on a vu quand même qu'il y avait des choses qui faisaient de l'Impact une équipe, certes en construction, puis vraiment ça a sauté aux yeux puisque bon, contre Toronto, il y a d'autres facteurs, mais que tactique, mais évidemment, je pense à la fatigue, mais on a bien vu que Toronto était bien plus en place, avait beaucoup plus d'expérience. Mais ce qui m'a vraiment sauté aux yeux sur ces deux matchs, c'est que il y a eu la confirmation que l'équipe est en construction, qu'il y a des automatismes qui sont encore à parfaire. Il y a même un schéma qui est encore à parfaire, bien qu'on a vu des choses intéressantes avec une nouvelle façon de jouer et de nouveaux hommes et une nouvelle mise en place. Mais je pense que l'avenir quand même est plutôt positif pour l'Impact. pas dans l'immédiat, parce que pour moi, ces deux matchs montrent que cette saison, ce sera vraiment une saison de transition et de construction. Mais par contre, si on reste sur les bases qu'on essaye de construire, il y a quand même des éléments intéressants à suivre. Et les joueurs qui sont arrivés au début de la saison montrent que il y a quand même des bons choix qui sont faits et qu'on peut bâtir sur certaines individualités et certains duos, par exemple, à certains endroits du terrain.
C'est très intéressant, vos mots, juste pour informer un peu nos auditeurs de la manière dont on prépare l'émission, évidemment on discute de quoi on veut parler, mais on ne se révèle pas nos mots à l'avance, donc c'est pour ça que parfois on peut avoir les mêmes, mais finalement ça arrive assez rarement. Et donc aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est que vos mots vont ouvrir la porte et à certains sujets en fait dont on va parler un petit peu plus tard. De mon côté, le mot, j'ai fait dans la simplicité, hein. Je me suis pas trop cassé la tête, j'ai pris unidirectionnel parce que c'était deux matchs à sens unique, hein, l'un en faveur de l'Impact contre Vancouver, l'autre en faveur de Toronto contre l'Impact. Et donc les résultats ont été sans surprise et ça va un peu dans le sens du débat qu'on avait la semaine dernière, est-ce que la hiérarchie canadienne est claire, un Toronto, deux Montréal, trois Vancouver, pour le moment c'est ça. On est à peu près à la mi-parcours de cette phase 1 100% canadienne, on va voir ce que ça va donner à la fin. Alors, du côté des auditeurs, on a aussi des réponses d'ordre un petit peu différent. Par exemple, inconstant d'Alexis, logique de M. Roy, prévisible d'Eve Julia, lymphatique de rupture musique, fragile de Stéphane Demers, enfin, évidemment pour le retour au stade, de Mario Soto, paternité d'Éric Chenard, ultra de Telo Huro, tactique de Machi Bouzouk et milieu de Mathieu Lapierre. Et c'est bien parce que vos mots, ils ouvrent des sujets dont on va parler un petit peu plus tard à l'émission, mais les mots des auditeurs, notamment tactique et milieu, eux, ils mettent la table pour l'apéritif, tant qu'on est dans la boisson. Et notre premier sujet, qui est, encore une fois, parce que souvent on en parle, mais c'est pas le même, le nouveau schéma, donc le nouveau schéma. Il y a encore plus de nouveaux schémas que de Beaujolais. Et donc, ce schéma, selon vous, on va commencer par une question assez basique, mais à la réponse sûrement assez développée, qu'y a-t-il de satisfaisant et qu'y a-t-il de décevant ?
Ce qu'il y a de satisfaisant, c'est quand même qu'il y avait une certaine densité au milieu du terrain, ce qui a été extrêmement efficace contre Vancouver, aussi parce qu'il faut reconnaître que le milieu de terrain de Vancouver c'était faiblard. On aurait pu dire ça pour toutes les lignes en vrai, mais je veux dire, au moins ils ont maîtrisé le milieu de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même plusieurs options avec les joueurs qui sont dans l'effectif, et ceux qui étaient sur le terrain offraient des caractéristiques différentes, c'est-à-dire que Wanyama, on le sait, il a une capacité de récupération et de projection quand même assez intéressante. Maciel a confirmé qu'il avait un jeu long extrêmement intéressant et décisif, donc c'est notable. Taider a joué un rôle assez inhabituel qui l'a mené même à la position d'avant-centre à certains moments, mais il a quand même délivré une passe décisive sur ce match, donc il a été décisif aussi. Il y a quand même une et puis il est plus créatif que les deux que Maciel et Wanyama, donc il y a quand même la possibilité de maximiser les qualités individuelles par un milieu de terrain un peu plus dense. Donc ça c'est quand même quelque chose qui était intéressant, mais c'est à parfaire puisqu'on a vu que quand le niveau s'élevait contre Toronto, normalement, évidemment, là, il y avait plus de fébrilité. Sejdik aussi a pas été au niveau sur le match contre Toronto, donc c'est sûr que quand il y a un absent tout de suite, ça devient plus délicat. Mais il y a quand même des possibilités intéressantes au milieu du terrain qui se créent avec ce schéma-là.
Ouais, moi, ce que je retiens dans l'ensemble, c'est que c'était sur le plan défensif, c'était quand même assez réussi, que ce soit contre Vancouver qui n'a rien fait qui vaille, mais bon, pour Vancouver, je pense que contre n'importe qui, il ne fait rien de très pertinent, donc c'est pas vraiment une preuve. Mais contre Toronto, on a quand même vu que pour les Torontois, c'était assez difficile de trouver la faille dans la muraille montréalaise, donc c'était intéressant de ce côté-là. Je retiens surtout qu'on n'a pas beaucoup vu Pozuelo, à part peut-être une ou deux accélérations au début de deuxième mi-temps, même s'il a quand même touché pas mal au ballon, il n'a pas fait grand-chose de très constructif avec, donc ça voulait dire que c'était quand même assez bien en place derrière pour Montréal. C'était difficile quand même pour Toronto de trouver les espaces, de jouer entre les lignes et tout ça, donc de ce côté-là, je pense que c'est une piste qui est intéressante. C'est quand même positif pour la suite des choses, à moins évidemment qu'on change encore une nouvelle fois de schéma et qu'on recommence à zéro. Mais avec les joueurs disponibles, le contexte actuel, je pense que c'était une solution intéressante. Puis je pense que ça a quand même amené des choses intéressantes, même si au point de vue, comme je le disais tantôt, au point de vue offensif, c'était un petit peu n'importe quoi par moment. Donc ça reste quand même à travailler, mais défensivement, c'est intéressant.
Ouais, de mon côté, j'apporterai quelques bémols à tout ça. Déjà du côté de Toronto, oui, c'est vrai que face aux Ontariens, ça a tenu défensivement pendant un bon moment. Ils ne sont pas créés énormément d'occasions, mais faut pas oublier qu'ils n'avaient pas d'attaquants sur le terrain. Déjà en début, Mullins, c'est pas vraiment le type d'attaquant habituel. Je veux pas dire que c'est pas un bon joueur, mais il n'a pas du tout le profil d'un Altidore ou d'un Akinola. C'est plutôt ça que je veux dire. Donc ça change la dynamique dans l'équipe. Et évidemment, il est sorti après un quart d'heure sur blessure. Ils avaient ni attaquant sur le banc, ni attaquant sur le terrain. Donc peut-être qu'ils seraient heureux d'avoir un Jackson Hamel, par exemple, dans leur effectif. Ça leur serait peut-être utile. Cela dit, je ne veux pas dire que ça diminue le mérite de l'impact, mais je pense que Toronto a beaucoup joué latéralement aussi en raison de ça. Après, peut-être que s'il y avait eu Altidore à la place de Mullins ou en tout cas en pointe, ça aurait donné le même résultat. Ça, évidemment, on ne peut pas savoir et on peut pas dire ouais, mais c'est parce que l'autre était mauvais, l'impact avait quelque chose à faire contre l'adversaire qui était sur le terrain, et évidemment il pouvait pas jouer contre un autre, mais donc c'est à revoir. Et face à Vancouver, il y a eu quand même des variations dans ce schéma, notamment en tout début de rencontre où le schéma était extrêmement déséquilibré, j'ai trouvé, et c'était un déséquilibre très bienvenu, dans la mesure où en fait Taider était plus à gauche en soutien de Lapalainen qui jouait très haut, alors que Raitala jouait très bas. À droite, il n'y avait pas vraiment quelqu'un. Kyoto était plus dans l'axe, mais Broguillard montait beaucoup et s'occupait du couloir. Donc le jeu penchait beaucoup vers la gauche. Et vu que le flanc droit de Vancouver est extrêmement faible cette saison, énormément de buts encaissés par Vancouver passent par là alors qu'ils ne marquent quasiment pas de ce côté-là, c'était évidemment très bien. Et la preuve a été faite puisque Taider, qui a donné la passe décisive sur le premier but, comme tu l'as dit, et Eric l'a fait en faisant un centre du côté gauche. Et le deuxième but, ben, c'est venu du joueur qui jouait sur la gauche, Lapalainen, après qu'il soit passé à droite. Et pendant que Lapalainen est passé à droite et qu'on a essayé de rééquilibrer la chose, ça a moins bien été. Et en deuxième mi-temps, l'impact est passé beaucoup plus par le côté droit et n'a pas marqué et a été moins efficace, même s'il a été tout aussi dominateur. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu, je dirais, des faiblesses des deux adversaires qui ont joué et qui ont aidé à mettre le schéma en valeur. Ce qui n'est pas une condamnation du schéma, loin de là. Ce que je veux dire, c'est un, c'est à revoir, et deux, évidemment, si match après match les faiblesses de l'adversaire sont bien identifiées et qu'il y a moyen de faire des petites adaptations justement comme ça a été fait face à Vancouver, bah ça peut continuer de bonne façon.
Ouais, d'accord, mais après, pour Toronto, avec ou sans attaquant, je comprends que ça change un peu la dynamique, mais au final, Toronto, c'est quoi sur la soirée, c'est deux tirs cadrés sur la même action, si on veut, donc l'action qui mène au penalty et le penalty. Et en dehors de cette petite fenêtre de 2 minutes et demie, bah, il s'est rien passé, quoi. Donc à quelque part, qu'il y ait un attaquant devant ou pas, je pense pas que ça aurait changé énormément la dynamique, quoi.
En parlant d'attaquant, il y a quand même un point intéressant du côté de l'impact avec ce schéma. Outre, tu as évoqué Jackson Hamel, alors Mathias, alors on va tout de suite régler son cas. Malheureusement, c'est pas sur les 10 minutes qu'il a faites contre Vancouver qu'il a marqué des points, le Jackson Hamel, et je suis pas sûr que Toronto, même sans attaquant, ait pensé à aller recruter Jackson Hamel à l'issue du match. Ça, c'est voilà, ça c'est un premier point. L'autre point, vraiment pour l'impact, c'est que les deux attaquants, l'attaque à deux avec ce milieu de terrain qui vient jouer les pistons entre le milieu et l'attaque, peut-être permet à l'Impact de moins avoir besoin d'un attaquant de pointe très performant. On avait déjà ciblé ce manque dans les schémas précédents en disant il faut absolument quelqu'un dans la surface parce que le problème c'est que l'Impact manque d'un attaquant de pointe. Or Kyoto Lapalainen, il y a quand même eu des choses intéressantes. Alors évidemment, et tu l'as évoqué, ils ont échangé leur rôle parfois, etc. Je pense que ça fait partie des tests, des pistes qu'on a essayé de suivre. Manifestement, ça a pas marché, mais il a bien fallu essayer quand même. Et je dirais que une doublette devant avec ce schéma un peu plus dense au milieu du terrain et ce milieu qui devient très offensif peut-être contourner le problème qu'avait l'Impact de pas avoir un attaquant majeur capable de finir les actions.
On en reparlera plus tard parce que justement c'est ce que Eric a lancé avec son mot, mais on va rester pour le moment sur le schéma et sur le milieu de terrain. C'est un schéma finalement qui a été vu face à un adversaire nettement plus faible et un autre, je dirais pas nettement plus fort parce qu'il manquait quand même certains atouts à Toronto, mais Toronto a quand même largement dominé le match au Stade Saputo. Donc c'est intéressant parce qu'on l'a vu dans des circonstances très différentes. Est-ce qu'à vos yeux, messieurs, ce schéma vaut dans ces circonstances, je dirais, quand l'Impact est dominant et quand l'Impact est dominé, ou alors est-ce que dans un des deux ou dans aucun, mais là on est plutôt positif envers le schéma, il faudrait l'adapter ou le changer?
Non, je pense qu'il faut surtout que l'Impact et les joueurs apprennent et comment dire, s'approprient ce schéma. Je pense que c'est normal qu'il y ait des choses qui n'aillent pas puisque c'était un nouveau schéma. Un de plus, évidemment, mais c'est sûr qu'on statait encore un petit peu du côté de l'Impact sur la bonne méthode. Donc il est temps peut-être de se fixer un peu, même s'il y a des matchs où ce sera plus compliqué parce que l'adversaire fait qu'on aurait peut-être dû s'adapter un petit peu plus, mais il faut déjà que l'Impact apprenne à jouer son jeu, avoir des automatismes au fil de la saison. Donc c'est à revoir quel que soit l'adversaire à mon sens. Évidemment, ça n'empêche pas de s'ajuster à certains égards, mais il y a un besoin de stabilité et puis de s'approprier cette façon de jouer.
Ouais, je suis pas mal d'accord là-dessus. Puis je pense que je l'ai déjà dit à l'émission plusieurs fois, il faut choisir un schéma et puis il faut travailler sur ce schéma-là, que ça soit au niveau du terrain ou au niveau du recrutement. Si on commence à changer à tous les trois matchs, ça va vite devenir compliqué. Ce schéma-là qu'on a vu contre Toronto et Vancouver, à mon avis, et encore là, je sais pas si je vais avoir raison parce que ça change tellement et puis il y a tellement de choses qu'on sait pas, mais j'ai l'impression que c'est temporaire. J'ai l'impression que c'est fait parce que il y a telle personne qui peuvent pas jouer cette semaine, donc on va essayer quelque chose qui va nous permettre d'aller chercher des résultats si possible. J'ai l'impression que c'est un peu les moyens du bord, quoi. Donc maintenant, comme je disais, ça a quand même donné des résultats intéressants défensivement, mais offensivement, tu sens qu'il y a un gros manque. Puis là, il faut se poser la question tout de suite, à savoir si on garde ce schéma-là, qu'est-ce qu'on fait quand tout le monde revient.
Ça c'est des questions, je le sens, l'empressement, les questions sont là, les questions sont évidentes et on les posera un petit peu plus tard dans l'émission parce que je vais répondre à une des choses que tu viens de dire par rapport au schéma temporaire. Moi je me pose la question s'il est temporaire ou à quel point il est temporaire, parce que Thierry Henry en conférence de presse a dit que ce schéma avait été aussi mis en place pour intégrer Maciel dans l'équipe. Et justement, bon, si vous voulez répondre à cette partie-là, allez-y évidemment. Mais ma question porte évidemment davantage sur le joueur argentin qu'on a enfin pu voir de nos yeux plutôt qu'à la télévision. La télévision, c'était une première encourageante. Maintenant, ça a été deux matchs pour confirmer. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Manu Maciel, comme l'appelle Thierry Henry?
D'un jeune joueur qui a du talent et qui a des qualités. Évidemment, le jeu long, ça a sauté aux yeux, mais je veux dire... Et ça demande aussi confirmation encore. Je veux dire, c'est un jeune qui a des qualités. Après, quand Chaume est rentré contre Toronto, je l'ai trouvé intéressant aussi. Donc, c'est pas non plus construire autour de Maciel. Je sais pas jusqu'à quel point c'est valable. Ce qui est sûr, c'est que une telle qualité de jeu long au milieu du terrain à Montréal, il y en a quand même pas tant. C'est sûr que notre ami chenois, évidemment, ne nous citera pas Samuel Piet, qu'on salue et qu'on félicite. D'ailleurs, mais blague à part, je veux dire, il a quand même un profil assez atypique, je trouve, parce que même Chaume, dont je viens de vanter les mérites, a pas un tel jeu long, par exemple. Mais c'est ça. Après, c'est toujours pareil. Il a des qualités, mais elles, à mon sens, elles sont pas mal uniques dans l'effectif. Le jour où il a un pépin physique, il faut pas non plus tout miser sur le jeu long de Maciel, parce que l'équipe doit quand même tourner. Et si jamais il est pas là, il faut bien mettre quelqu'un à sa place. Et si on s'appuie trop sur les qualités individuelles d'un seul joueur, bah là, ça commence à être problématique.
Non, c'est clair que Maciel a sa place dans le 11, ça fait pas l'ombre d'un doute. On connaissait pas du tout le bonhomme, mais on l'a vu, c'était son troisième match contre Toronto. Je pense qu'à chaque fois, bah, il nous a fait ouvrir les yeux. C'est un type qui a des qualités, qui a une bonne compréhension aussi du jeu. Ça, c'est quelque chose dont on parle pas très souvent, mais il avait un rôle quand même défensif à la base. Hein. Son jeu long est très bien, mais son premier objectif, surtout contre Toronto, c'était de défendre. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il a fait très bien aussi. C'est un gars plein de qualité, donc il y a pas de raison qu'il soit sur le banc. Mais bon, encore là, je vais revenir à mes questions de tantôt, mais il y a des types qui vont se remettre en forme et qui vont devoir jouer aussi, donc qui va devoir laisser sa place, ça c'est une autre question, mais c'est sûr que bon, si on cherche des schémas et des solutions pour faire jouer Maciel, il faut s'attendre à ce qu'on continue à le faire par la suite, donc...
Ouais, et puis si on cherche un schéma pour faire jouer Maciel, la question que je vais poser avant de poser la question que tu as déjà posée deux fois, Eric, c'est bon, là on voit un petit peu le schéma que ça donnait au milieu. Maciel était plutôt à gauche. Est-ce qu'il faudrait pas trouver, on va dire, son clone côté droit pour équilibrer le tout et pour avoir finalement la même façon de jouer des deux côtés et d'avoir justement quelqu'un qui, comme lui, à un bon jeu long, 2, une bonne distribution, 3, peut avoir un gros volume de jeu, et 4, c'est aussi bien défendre, parce que c'est une de ses missions premières. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais avec Maciel, on a vu qu'on pouvait en trouver quand même un joueur très satisfaisant pour un bon prix. Donc est-ce qu'il faudrait soit en trouver un nouveau pour jouer comme lui à droite, si évidemment, je dis, on garde le même schéma, ou est-ce qu'on l'a déjà dans l'effectif, ou est-ce qu'il n'y en a pas besoin ?
Il va quand même falloir... l'idée, c'est quand même de se batailler à un moment. Évidemment, le milieu du terrain, c'est quand même une zone où on commence à avoir un peu de concurrence. C'est plus discutable en défense et en attaque, même si Kyoto, je pense, pour l'instant, laisse la concurrence de côté, puis il reste une ou deux places devant, mais Kyoto, il a gagné sa place. Mais le surplus de concurrence va être bénéfique à l'Impact. C'est plus aux joueurs déjà en place à essayer de saisir les opportunités, parce que plus ça va aller, moins il y aura d'opportunités, parce que soit il y a des joueurs qui auront pris la place, soit il y aura quelqu'un qui sera arrivé parce que t'as pas réussi à prendre le train en marche, mon coco. Donc salut.
Tu réponds pas tout à fait à ma question, parce que ma question, c'est est-ce qu'il faut privilégier quelqu'un qui a le même profil que Maciel pour occuper cette place, on va dire symétrique à lui, mais du côté droit. Ou
pas
alors, est-ce que ça change rien?
Pas nécessairement.
Okay. Eric?
Non, pas nécessairement non plus. Je pense que après, ça vient aussi avec les consignes qu'on donne aux joueurs sur le terrain. Donc, si l'objectif c'est de récupérer le ballon puis de faire des longues passes, oui, à ce moment-là, ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui est bon pour faire des longues passes. Mais après, si on demande au gars qui est à droite de Wanyama de plutôt simplement se porter vers l'avant quand l'Impact a le ballon pour essayer d'aller rajouter du nombre devant, ben un gars comme Shaw, mais qui est très capable de le faire, quoi. On l'a vu d'ailleurs contre Toronto, là, quand dès qu'il est monté, je pense que ça lui a pris peut-être une minute et demie ou deux, et puis il en avait déjà fait plus que Sidic. Donc après, il y a des gars qui sont capables d'apporter quelque chose dans l'équipe, ça c'est sûr et certain. Mais je vais revenir à ma question.
Oui, mais je te la pose. Si vous ne l'avez pas deviné, la question d'Eric, c'est qu'est-ce qu'on fait quand Bojan revient? Mais où on bouge qui? On enlève qui? On fait quoi? On va faire un petit peu le tout. On va prendre les joueurs qui étaient là contre Vancouver, vu que il y avait moins d'absents. Wanyama qui vient d'arriver, milieu défensif de très haut calibre, joueur désigné. Maciel, on en a parlé tout à l'heure, le schéma a été fait pour l'intégrer dans l'équipe. En plus, du côté gauche, il a le profil qu'il faut pour cette place-là. Il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre qui le remplit. Piet, qui chaque fois que l'équipe a joué, qu'il était disponible, il a commencé le match. Tyder, lui aussi, joueur désigné, est quand même un des joueurs très importants de l'équipe, et un des joueurs aussi qui peut marquer des buts et donner des passes décisives, et il n'y en a pas des tonnes. Ou alors Boyan, on le met devant, mais il n'a pas du tout, quand on voit comment Kyoto et Lapalainen ont joué contre Vancouver et Toronto, il n'a pas du tout ce profil-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou alors l'autre option, c'est Boyan, on fait ses bagages et on lui donne un billet d'avion, c'est possible aussi. Il va falloir prendre une décision de toute façon. Et la concurrence, quand on parlait Quentin tantôt, il y en a. Hein.
Ni l'un ni l'autre. Bojan, il revient, il va aller sur le banc, comme tous les joueurs qui reviennent pour se remettre en rythme, et il va devoir gagner sa place. Et si jamais il ne gagne pas sa place, alors peut-être on pensera au billet d'avion. Mais pour le moment, Bojan, il n'a pas montré qu'il avait... Il a rien montré cette année qui fait de lui un joueur aussi important que Wanyama, par exemple, indéboulonnable, ou que Kyoto, ou que Binks, ou que Diop, mais il faut qu'il gagne sa place. Après, c'est Bojan, il gagne de l'argent, tout ça, très bien, mais à un moment, on pense équipe, et il n'a pas montré qu'il avait le droit d'avoir un statut d'indéboulonnable, donc il va revenir, et puis il va rentrer dans la concurrence. C'est une grosse concurrence pour les gars qui sont là, mais personne ne doit être à l'abri d'aller faire un tour sur le banc, Bojan y compris. Donc, à mon avis, Bojan, il va falloir qu'il travaille et qu'il trouve sa place, qu'il gagne sa place avant d'aspirer à être le chef d'orchestre qu'on attend de lui. Mais pour l'instant, il est aussi peut-être encore un peu trop tôt pour qu'il plie bagage, parce qu'on aimerait quand même voir vraiment ce qu'il est capable d'apporter, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Donc, je le garderai, puis je le ferai travailler et je lui dirai gagne ta place, mon cher.
Allez, Quentin, pour vous faire une image de tout ça, donc Bojan voudrait une baguette de chef d'orchestre, mais pour le moment, il lui donne un plumeau pour dépoussiérer le banc. C'est vraiment... c'est un peu ça, hein, que t'en train de nous dire, Quentin, quand même.
Il faut qu'il gagne sa place, puisque ceux qui ont été là globalement ont quand même été performants, donc il faut qu'il soit à son tour performant.
Que dire?
Eric est perplexe, dirait-on.
Pourtant, c'était Eric qui posait la question, Bojan revient, et maintenant il sait plus quoi dire.
Non, je sais quoi dire, en fait. J'ai d'ailleurs un petit peu ouvert la porte tout à l'heure en parlant d'un schéma temporaire. J'ai l'impression que le schéma va encore changer. Parce que, si tu regardes la manière dont Montréal s'est aligné contre Vancouver et Toronto, contre Vancouver, t'as un Tider qui jouait quasiment en attaquant de pointe. Honnêtement, moi, j'ai pas trouvé ça fantastique. Bon, il donne une superbe assist là de l'extérieur du pied, mais bon, c'est pas quelque chose qui est lié à l'endroit où il jouait sur le terrain non plus. Je veux dire, il aurait pu se retrouver dans cette situation-là en jouant ailleurs.
Je suis à moitié d'accord, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à ce moment-là, il jouait il jouait pas toujours faux attaquant de pointe, parce qu'il était quand même un petit peu plus sur la gauche en début de match, et en soutien de Lapalainen, et il se retrouvait moins souvent en attaquant de pointe que après, je pense, 15, 20 ou 30 minutes de jeu, je sais plus, quand le schéma s'est rééquilibré, et aussi quand Kyoto et Lapalainen ont changé de place. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, on l'a moins vu sur ce flanc gauche et dans ce genre de situation-là.
Ouais, d'accord. Tout ça pour dire que finalement, ça restait une expérience. Et puis, moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement réussi. C'était pas entièrement mauvais, mais bon, ça restait quand même une expérience. Et puis, c'était un petit peu étrange à voir, quoi. Donc, si on retient ça, après on regarde Boyan. Boyan a déjà été un petit peu dans cette situation-là aussi. Il nous a pas vraiment donné des résultats très probants. Donc, est-ce que c'est la solution? Pas tout à fait. Qui d'autre peut jouer à cette position-là? Ben, il n'y a pas vraiment personne en ce moment. Comme je l'ai dit tantôt, l'attaque, c'était un petit peu n'importe quoi. Donc, derrière, ben, il n'y a pas vraiment personne pour prendre ce poste-là. Donc, moi, ce que j'envisage, c'est un changement de schéma. Et maintenant, dans ce schéma-là, je pense que sur les quatre qui ont joué au milieu contre Vancouver et Toronto, qui s'est vraiment démarqué à part Wanyama et Maciel? Donc, à partir de là, ben, je pense que c'est les deux gars sur lesquels tu veux travailler. Maintenant, ben, quand Boyan va revenir, ben, à mon avis, ben, il va falloir essayer de trouver une manière de garder Maciel sur le terrain et puis de remanier un petit peu les cartes pour faire de la place aux gars qui méritent d'être là, quoi.
Oui, et puis bon, il y a toujours aussi l'option du 3-4-2-1, on avait beaucoup parlé auparavant, mais là, on en est loin pour le moment, on s'en éloigne, donc ne relançons pas ce débat-là. On va plutôt continuer avec toi, Eric, parce que tu veux parler beaucoup de l'animation offensive, et ça, oui, aussi, c'est une marotte dont on parle très régulièrement. Et dans ta réponse à la question en un mot, tu as parlé de vide sidéral. À ce point-là, je voudrais bien que tu développes.
Ben écoute, y a deux matchs hein, dont on parle, donc y a deux situations différentes. Contre Vancouver, ben Vancouver est arrivé ici. Moi, la dernière émission, j'avais dit que je m'attendais à voir Vancouver défendre et puis jouer plus en bloc derrière. Ils ont pas fait ça. Ils ont pas attaqué non plus. Finalement, on savait pas trop ce qu'ils étaient venus faire à Montréal. On savait même pas s'ils jouaient le même sport que les autres. Donc à partir de là, c'était quand même relativement facile d'aller leur mettre deux buts qui sont quand même sortis. Bah, le deuxième, c'est vraiment une passe lumineuse derrière un défenseur qui baille aux alouettes. Donc après, bon, c'est pas non plus un exemple d'animation offensive. Ce que je retiens, c'est que contre Vancouver, il y a quand même pas eu énormément de construction. Quoi. J'ai vu des commentaires positifs sur les réseaux sociaux, comme quoi ça allait super bien et blablabla. Moi, j'ai pas tout à fait vu la même chose. J'ai vu un club qui essayait d'avancer sur le terrain, qui réussissait la plupart du temps parce que Vancouver est quand même relativement inapte défensivement. Donc non, mais c'est vrai quoi. Je veux dire, c'est une équipe qui est très très faible. Il faut Marc Dos Santos a quand même fait tout ce qu'il pouvait sur le côté, mais c'est pas lui qui est sur le terrain non plus. Après quand
il y était presque hein, parce qu'il est souvent sur
il était technique, presque. Hein. C'est vrai que la zone technique pour lui c'est un concept très abstrait. Mais bon, après, je veux dire, quand t'as 7 vaches et demie sur le terrain, ça devient vite difficile, quoi. Pour moi, c'était pas une preuve que ce système-là était valable point de vue offensif. Et puis on l'a vite vu contre Toronto, quoi. Contre Toronto, ça a été c'était d'une nullité abyssale, quoi. Il se passait rien dans les deux sens. Hein. D'ailleurs, hein, Toronto, ça jouait très latéralement, mais Montréal, quand ça avait le ballon, techniquement, c'était des déchets. Il y avait pas vraiment d'idée dans la construction. Les types devant se demandaient un petit peu pourquoi ils étaient là. À un moment donné, il y avait tellement de gens devant qu'on se demandait qu'est-ce qu'ils essayaient de faire exactement. J'avais l'impression à un moment donné que ça jouait en 2-3-5 comme il y a 100 ans. Quoi. Et puis même en mettant du nombre devant, ben il y avait rien de probant qui sortait de ça. Donc c'était difficile pour moi. Le schéma qu'on a vu était surtout axé sur l'aspect défensif. Et puis contre Vancouver, ça faisait un peu bizarre quand même de blinder un petit peu le milieu comme ça et la défense contre une équipe qui finalement n'est pas capable d'avancer sur un terrain. Donc je pense que c'était une espèce de répétition générale pour le match contre Toronto. Contre Toronto, comme je l'ai dit, ça a donné quand même des résultats défensivement, mais bon, offensivement, c'était le vide. Donc je sais pas comment vous l'avez vu vous. Mais moi, j'ai pas vraiment été épaté. Quoi.
De mon côté, contre Vancouver, en fait, les attentes étaient assez basses. On en avait un peu parlé à la semaine passée à l'émission. Vancouver avait déjà joué deux matchs et ils avaient du rythme de match dans les jambes, et beaucoup d'équipes de MLS qui jouaient leur premier match après le retour du tournoi en Floride avaient du mal. En face, il y avait une équipe très faible, notamment l'entrejeu, c'était abyssal, mais je pense que Vancouver, honnêtement, on va pas relancer le débat de la promotion de relégation, mais Vancouver, c'est un argument énorme pour les promotion de relégation, parce que ils ont rien à foutre en MLS 1. Non, s'il y avait deux divisions, ils seraient à leur place, puis au moins ils pourraient paraître dans certains matchs, parce que là, les deux matchs à Toronto, c'était pas mieux. Et donc, mais de nouveau, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'absence d'attaquants à Toronto, c'était pas la faute de Montréal si l'adversaire était hyper faible. Et Montréal avait un travail à faire, il l'a fait. Peut-être que c'était pas extraordinaire, mais l'Impact avait quand même beaucoup à perdre dans la mesure où, face à un adversaire comme ça, si tu passes à côté de ton sujet, tout le monde va te pointer du doigt, tout le monde va te critiquer. Donc, bon, contre Vancouver, je vais dire, j'ai pas fait la fine bouche. J'ai pas trouvé ça fabuleux non plus, mais il y avait quand même pas mal de circonstances atténuantes, et c'était honnêtement moins pire, notamment physiquement, que d'autres équipes de MLS. Mais ça demandait amélioration et confirmation, et contre Toronto, là je suis 100% d'accord avec toi Eric, contre Toronto, bah, on a joué dans une moitié de terrain quasiment tout le match, puis l'Impact a pas fait grand chose quand il avait le ballon, il y avait énormément de déchets techniques, ce qui n'a évidemment pas aidé, parce que quand il faut passer par 4-5 joueurs et que au bout du troisième il y en a un qui rate son contrôle, ça passe ou quelque chose comme ça, ben c'est fini. Et il n'y avait pas d'idée. Les longs ballons dont on avait parlé, dont on a parlé précédemment, on n'en a pas vu non plus, et on n'a pas vu cette précision, parce qu'on entendait dire, ah ouais, mais la Palainen, il peut apporter la profondeur. Bah ouais, c'est bien de l'apporter contre Vancouver, mais contre Toronto, ça peut être très utile, d'autant que Toronto, ils peuvent souffrir sur les longs ballons. On se souvient d'ailleurs du tournoi Orlando, où l'Impact a été dangereux et a même provoqué un penalty, un but comme ça. Donc, mais ça, on l'a pas vu non plus. Donc c'est vrai que ce schéma-là, point de vue milieu de terrain défensivement, ça va, mais point de vue animation offensive, c'est de mon côté aussi, je pense que ça risque d'être trop court si l'équipe veut être ambitieuse et veut se classer en ordre utile, quoique, vu le nombre d'équipes qui vont disputer la phase finale de la saison, il n'y a pas beaucoup d'éliminés.
Mais là où je vous rejoins, c'est évidemment qu'il y a du travail sur la ligne d'attaque, puis il faudrait vraiment être aveugle pour pas le constater, mais... ça rejoint un petit peu mon idée lors de la question en un mot, c'est clairement que l'équipe est encore en construction et que dans une phase de construction d'une équipe, on pense d'abord à consolider la défense, parce que c'est bien défendre, entre guillemets, c'est plus simple que bien attaquer. En tout cas, c'est en général comme ça que ça se passe. Et justement, il y a de la difficulté quand même à trouver un bon schéma de jeu pour des animations offensives. Il faut avoir les bons joueurs aux bons endroits, donc ça demande aussi parfois quelques ajustements au mercato, et que l'Impact n'a pas encore eu tout le temps nécessaire pour construire. L'équipe, elle vient d'arriver, l'équipe de le staff, la direction sportive, et pour une bonne partie de l'effectif aussi, qui est sur le terrain, quand on prend les 11 de départ contre Vancouver et Toronto, il y avait quand même plusieurs joueurs qui étaient arrivés cette année. Donc, tout ça demande du temps. Il va falloir être patient. Alors, évidemment, comme tu disais, pour se frayer une place dans les équipes qui iront faire les playoffs peut-être cette année, étant donné les circonstances et le nombre d'équipes, il y aura de la place, mais ça fera pas de l'Impact une équipe de tableau de MLS. Ça, pour les gens qui veulent voir ça, ça prendra peut-être 2 ou 3 saisons. C'est le temps que tout le monde s'installe et que le travail commence à porter ses fruits. Là, il est beaucoup trop tôt, et il est évident que la ligne d'attaque et la construction offensive est l'illustration criante de ce besoin de temps.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, en même temps, sans rêver à une équipe du top en MLS, un schéma comme celui-là contre Vancouver, ça trouve pas le cul là, de demander à Maciel et Piet de monter plus haut sur le terrain quand on attaque, quoi. Je veux dire, après, il y en a juste un qui l'a fait, c'était celui qui est le moins apte offensivement. Donc après, c'est aussi des directives, quoi. Je veux dire, Si t'as deux milieux qui avancent quand on attaque, ben ça te donne tout de suite plus d'options, ça met la défense sous pression et tout ça. On l'a pas vu à un moment donné, on a même vu, je pense, c'est Wanyama se porter à l'attaque. Il a combiné avec Piet, c'était le truc le plus étrange du match d'ailleurs, que ces deux gars-là qui sont réputés pour être plus défensifs se portent à l'attaque et puis jouent aux abords de la surface comme ça. C'était un peu étrange, mais c'était encore aussi la preuve que quand les types se portent devant, ça crée des options. Donc si tu demandes à Maciel de monter plus haut sur le terrain, tout de suite ça rajoute du poids, quoi.
Mais tout ça demande de la confiance, Eric, tu le sais, tu vois, ça demande aussi une dynamique, et l'Impact était une mauvaise équipe de MLS, il faut pas l'oublier, faut
être... Ah oui, mais justement, les équipes comme Vancouver, elles sont là pour faire ce genre de choses là, parce que tu
dis,
mais
tout de suite, c'est... L'Impact a gagné.
Tout à fait d'accord, mais c'était aussi l'occasion d'essayer quelque chose un petit peu plus risqué, quoi, sachant que les mecs derrière, ils jouent sur une jambe, et puis ils savent pas vraiment ce qu'ils font avec un ballon. Donc après, c'est l'occasion rêvée de jouer plus offensivement, puis de booster ta confiance avant Toronto.
Je suis pas d'accord, parce que Montréal était pas une bien meilleure équipe que Vancouver ces dernières saisons. Cette année, oui. Mais je veux dire, Montréal était une équipe de bas de tableau. Comme Vancouver, Montréal, même si il y a des individualités, puis il y a quand même plus de qualité qu'à Vancouver cette année, ça s'est vu comme le nez au milieu de la figure. Mais Montréal peut pas prétendre jouer comme une équipe qui joue les premiers rôles. On peut pas prendre un adversaire de haut, ou en tout cas se permettre de tenter des choses sous prétexte que l'adversaire est faible, quand soi-même on n'est pas sûr d'être très fort. Et pour l'instant, l'Impact peut pas encore prétendre être sûr de ses moyens.
Moi, de mon côté, je pense que ça commence à être un schéma qui, on va dire, est moins inadapté que d'autres aux joueurs qui sont dans l'équipe. Mais est-ce que les joueurs qui sont dans l'équipe sont adaptés pour avoir une équipe de MLS ambitieuse d'ici quelques années? Ça, j'en doute. Et de nouveau, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trouve un schéma qui fonctionne pas trop maintenant et qu'on travaille dessus? Ou est-ce qu'on trouve un schéma qu'on devra peut-être changer plus tard? C'est ça. Et puis, je suis un petit peu comme Eric, ce schéma-là me laisse perplexe à long terme. Une des choses dont tu as parlé tout à l'heure, Quentin, c'est les rôles de Kyoto et Lapalainen, qui sont très 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 éloignés, très écartés l'un de l'autre. Ils apportent une nouvelle dimension, ça c'est certain, c'est intéressant. Ils disaient aussi qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin d'attaquants de pointe. Je voudrais savoir qu'on réfléchisse à si ça tient la route, que ce soit individuellement chacun dans ce rôle-là, et surtout aussi collectivement, est-ce que avoir ces deux joueurs-là devant l'un qui joue beaucoup sur sa vitesse, l'autre qui est quand même un petit peu plus complet, ça peut faire mal, on va dire, à long terme aux autres équipes de MLS.
D'abord, un point sur leur position très écartée. Tu fais bien de le mentionner, parce que à plusieurs reprises, évidemment, là, au stade, on entendait bien, les consignes de Thierry Henry, parce que il y avait personne dans le stade. Et à de nombreuses reprises, il a appelé ses joueurs, donc Kyoto et Lapalainen, et il leur a dit de coller la ligne. Et pas juste une fois, c'était vraiment quasiment toutes les trois minutes, là, il disait, sur les relances notamment, reste le long de la ligne. Donc c'est quand même, en tout cas, quelque chose qui était vraiment vraiment voulu et considéré et on va dire anticipé de la part du staff pour ce positionnement là. Après, sur le long terme, pour l'instant, c'est toujours difficile de se baser sur le long terme, parce que les schémas changent encore, parce que on n'est pas encore certain, il y a encore des places à prendre, on l'a dit, donc il faut quand même rester prudent. Puis pour un moment, là, ce sera la parole après les actes, c'est-à-dire que tu as une chance et puis il faut marquer. Ce qui est sûr, c'est que Lapalainen et Kyoto ont tous les deux marqué des points, mais aussi des buts, et que ça, c'est quand même un signe positif pour eux. Après, est-ce que ça va durer? Il y a beaucoup trop de facteurs pour l'instant pour avoir une opinion définitive là-dessus.
Ouais, encore là, ils ont marqué des points contre Vancouver, parce que contre Toronto, on les a pas vraiment vus non plus.
Kyoto, il était cuit contre Toronto physiquement.
Kyoto, il était cuit comme la moitié de l'équipe à peu près d'ailleurs.
Parce qu'en début de deuxième
mi-temps, ça se sentait fort. Là. Les jambes étaient lourdes, puis c'était lent à réagir. Mais pour la Palainen, c'est bien gagner des points contre Vancouver, mais après c'est contre Toronto que tu dois gagner des points. C'est pas compliqué pour lui là, je veux dire. Il a un rôle quand même assez simple. Donc après que ça marche contre Vancouver, c'est pas surprenant à mon avis déjà, parce que bon, Vancouver, comme je l'ai dit tantôt, défensivement c'est pas génial. Donc un gars contre la Palainen qui se met en évidence contre Vancouver, pour moi c'est normal quoi. C'est le contraire aurait été surprenant. Mais après c'est contre Toronto qui doit élever le cran le jeu d'un cran, et puis qui doit amener quelque chose de plus. Maintenant si tu le fais contre Vancouver et puis que ça marche et puis que contre Toronto t'es grillé, ben là on a un problème de priorité, je pense. Puis pour Kyoto aussi c'était la même chose. Kyoto c'était fort contre Vancouver, contre Toronto il était plus là parce qu'il était grillé. Bon, je sais que c'est deux matchs en 3-4 jours, mais quand même je sais pas s'ils ont bien géré leur match à ce niveau-là.
C'était aussi une situation un petit peu compliquée pour Thierry Henry, pour le préparateur physique, il a certainement conseillé à ce sujet-là, parce que d'habitude, quand il y a deux matchs en quatre jours, bah, on se dit, soit on garde les mêmes joueurs parce qu'ils sont frais, parce qu'ils sont en forme, soit on fait une rotation, et ceux qui vont remplacer les uns, ils vont quand même être plus frais. Mais là, c'était pas le cas du tout, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Bah, les joueurs, ils ont eu la quarantaine après le retour d'Orlando. Ils n'étaient pas forcément tous en forme de match. Et jouer son premier match, que ce soit contre Vancouver ou contre Toronto, c'était difficile. Et à côté de ça, bah, soit tu fais jouer un joueur son premier match contre l'adversaire le plus fort et il n'est pas forcément en forme de match, alors que Toronto, lui, l'est, et en plus a eu plus de jours de congé. Soit tu fais jouer les joueurs deux matchs de suite, et évidemment, il y a un manque de fraîcheur qu'on a vu. Donc c'était un peu choisir entre deux solutions extrêmement extrêmement compliquées. Et il y a une autre chose que je veux rajouter avec ce que tu as dit, Eric, ça me fait penser à quelque chose, c'est que ce calendrier 100% canadien, de ce qu'on a vu pour le moment, pour l'impact... particulièrement, je trouve qu'il est un petit peu handicapant, dans la mesure où tu disais « Ah, mais la Palainen et Kyoto, faudrait qu'ils se montrent contre Toronto et pas contre Vancouver. » Faudrait surtout qu'ils puissent se montrer contre des équipes comme justement Orlando, Dallas, des équipes qui sont, on va dire, un peu plus fortes et qui sont pas archi-dominantes, où finalement, bah, tu vois pas le ballon, comme Cavani, ouais, il faut qu'il se montre contre tout le monde, mais il a raté un penalty lamentablement, ça c'est autre chose. Mais je veux dire que Cavalini ou Ricketts à Toronto, ils n'ont pas vu le ballon. Donc forcément, c'est aussi difficile de se montrer dans ces circonstances-là.
Bah, oui, c'est sûr que la situation actuelle est difficile pour tout le monde. Mais bon, après, je sais pas. Moi, j'ai de la difficulté à m'enthousiasmer de la victoire contre Vancouver. Quoi. C'est bien, la Palainen est revenue, et puis, bah oui, il fallait dire que c'était bien, il fallait quand même lui lancer des fleurs, parce qu'il a fait un bon match. Mais ça reste Vancouver, quoi.
Allez, je vais prendre le parti de Quentin, et je vais voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que Kiko et la Palainen sont satisfaisants dans ce schéma-là, et que eux, ils sont à leur place, et que ça va. Partons de ce point de vue-là pour être positif et pour poser une autre question à côté. Est-ce qu'il y a suffisamment de possibilités de les alimenter? Suffisamment de monde qui participe à cette animation offensive? Parce que sinon, une fois que les autres ont compris, ben le robinet va très 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 vite être coupé, et Kyoto et la Palainen, aussi satisfaisants soient-ils, ben ils seront plus alimentés, et donc ça ne servira à rien. Et puis ça revient un petit peu à ce qu'Eric déjà disait tout à l'heure, avec la participation au jeu offensif, de certains milieux de terrain qui ont plutôt une vocation défensive, ou ce qu'a fait Tider en faux numéro 9. Donc est-ce qu'il y a assez de monde dans ce schéma-là qui participe à l'animation offensive pour que ça fonctionne justement contre des adversaires qui sont peut-être pas aussi forts que Toronto, mais qui sont certainement pas aussi faibles que Vancouver?
La variation de l'arrivée du ballon aux attaquants est un axe de progression, je pense justement aussi chez l'Impact. Et je pense que les latéraux, Broguillard, Aitala, Corrales, ont sans doute à progresser dans leur rapport offensif et surtout en étant décisifs. Évidemment, Broguillard continue de se projeter beaucoup à l'avant, c'est moins le cas pour les joueurs à gauche. Est-ce que Broguillard a bien fait? C'était quand même moyen brouillon à plusieurs reprises.
Avec Kyoto qui colle la ligne. Et, ouais, et la baleinienne de l'autre côté, il y a moins d'espace justement que dans le schéma de début de saison avec le 3-4-2-1 où les deux gars sur les côtés ont beaucoup plus d'espace pour monter, pour être dangereux offensivement et pour apporter quelque chose et justement contribuer à cette animation offensive.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et ça fait aussi partie, finalement, de la multiplicité de l'animation offensive. Je veux dire, ils doivent aussi pouvoir repiquer dans l'axe à certains endroits. Je veux dire, il y a évidemment des choses à travailler dans l'animation offensive et ça en fait partie. Il y a moins de place, c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Simplement qu'il va falloir s'ajuster, travailler pour que certaines options soient disponibles au moment où on a la possibilité d'attaquer. Mais pour l'instant, c'est vrai que les options sont pas légion, mais quand même, on en a de plus en plus, puisque Maciel, il y a un gelon et que c'est appréciable et que c'est une option qu'on n'avait pas forcément avant. Il y a toujours la force de projection des uns et des autres, de Taider ou de Choum quand ils jouent, etc. Donc, il y a quand même, on commence à entrevoir certaines possibilités, mais on en est vraiment à une version embryonnaire pour l'instant, quoi.
Pour Broguiar, il y a un problème qu'on a déjà relevé à l'émission dans le passé, c'est que c'est bien de se projeter vers l'avant, mais ça te prend quand même quelqu'un pour jouer avec toi sur ce flanc-là. Et puis, ben, quand Broguiar, il lève les yeux, il a qui à ses côtés? Si on regarde les deux derniers matchs, ben, soit c'est Piet, qui est pas nécessairement le joueur le plus offensif du lot. Et puis, contre Toronto, c'était Sejdić qui, je sais pas, Sejdić, on aurait dit qu'il avait peur d'être sur le terrain. Donc, on l'a pas vraiment vu. Il a pas vraiment osé bouger de sa position. Après, pour un gars comme Broguiar, dont l'objectif, c'est de faire monter le ballon sur le flanc, c'est difficile quand t'as personne à le donner pour t'aider. Ça, c'est un gros problème dans l'animation offensive aussi. Et encore plus si on lui bouche le chemin en allant mettre Kyoto le long de la ligne. Kyoto, c'est pas un type qui est facile à déplacer. Donc, ça fait office de mur un peu. Donc forcément, il est obligé de revenir vers le milieu du terrain, vers l'axe. Et puis, qui est là pour ne pas jouer avec lui, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est Sejdić, c'est Piet, c'est Taider ou Routy qui font, Routy premièrement qui fait n'importe quoi, Taider qui a tendance à jouer plus à gauche. Donc c'est le pauvre Zachary. On peut dire que c'est pas probant ce qu'il fait en ce moment, mais en même temps. Ça doit pas être facile tous les jours de rentrer au bureau dans ces conditions-là, quoi. Il faut l'aider, le pauvre. Donc, ça revient à ce qu'on disait, tantôt. Moi, je pense qu'avec un gars comme Shaume, et puis on l'a vu contre Toronto quand Shaume est monté, je pense que ça pourrait débloquer beaucoup l'animation du côté droit, et puis ça pourrait être intéressant.
Eh bien, je suis content, Monsieur Chenois, de vous entendre dire ça, parce que moi, j'aime beaucoup Shami Choum. C'est un joueur qui a énormément progressé l'année dernière, et j'ai envie de le revoir encore cette année, parce que il a un gros potentiel, et je m'explique mal la sous-utilisation de Choum. Je me l'explique peut-être moins mal que son utilisation arrière-droit, mais on va pas revenir là-dessus. Mais il y a une place à prendre. Il faut voir si Shaume est capable de l'apprendre. Je lui crois le potentiel pour y arriver, mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les actes avant les paroles. Donc si il a eu une petite opportunité, il a montré qu'il avait du talent, il l'a rappelé. On espère qu'il aura l'occasion de le montrer sur une plus longue durée.
Ouais, alors Shamit crée des choses. Puis je pense que c'est de ça dont on parle en ce moment, c'est de créer des choses, c'est de créer des occasions, c'est de créer de l'espace, c'est de trouver une façon de faire bouger la défense pour créer des choses, quoi. Donc c'est de la création. Et puis on l'a dit toute l'année passée, Shaume, il crée des choses, et puis on l'a encore vu contre Toronto, il a créé tout de suite quand il est arrivé, ça a débloqué le côté droit, et puis il y a eu des occasions qui sont sorties de là. Le foot, c'est très compliqué, mais en même temps, c'est très simple. Je veux dire, si t'as besoin de créer des choses, puis que t'as un joueur qui crée des choses à chaque fois qu'il est sur le terrain, à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, quoi.
Et il faut aussi se montrer tolérant parce que c'est un jeune joueur qui aura aussi des trous d'air, 22 ans, pas une expérience, non. Une seule année titulaire en MLS, donc des trous d'air, il en aura, mais comme les joueurs entre 18 et 22 ans finalement.
Et pour ajouter à ça, je dirais que les trous d'air, il en a déjà eu un énorme l'année dernière à Kansas City. Oui. Il a montré qu'il savait réagir positivement après. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'encourageant à son sujet. En revanche, Quentin, tu parles des actes avant les paroles. Faut pas oublier une chose qu'on ne voit évidemment pas, et encore moins même en ces temps de pandémie, c'est les entraînements. Et il y a des choses aussi qui se passent à l'entraînement qui font que certains joueurs sont convaincants. Et on a entendu à gauche, à droite, dans juste des petites remarques de joueurs dans les conférences de presse, que Seidich, il était assez intéressant. Donc la titularisation de Seidich à la place de Chaume, elle m'a pas surpris plus qu'il ne fallait, dans la mesure où j'avais ouï dire que ça se passait assez bien l'entraînement pour lui. Donc c'est ça, maintenant évidemment il faut le confirmer en match. Et là, quand Chaume est monté, c'est sûr que ce qu'ils ont montré contre Toronto, si Chaume avait commencé le match à la place de Seidich, aurait été beaucoup mieux pour l'impact. Pour répondre à la question initiale, de mon côté, j'ai des doutes aussi sur l'animation offensive et sur les gens qui y participent. Tout à l'heure, on a dit que les arrières latéraux, ils étaient un petit peu barrés avec les joueurs qui restent sur leur ligne. Évidemment, c'est appelé à se développer et à changer, comme Quentin l'a expliqué. C'est dans le milieu de terrain, quand les joueurs sont plus proches les uns des autres, comme on a vu justement en tout début de match contre Vancouver avec Tyder qui était plus près de la Palainen, ça a apporté quelque chose. Maciel, c'est des longs ballons, moi je veux bien, mais ça va pas être sa force première non plus. Donc je pense qu'il y a peut-être trop de joueurs dans ce schéma-là, dont l'apport offensif, comme les longs ballons de Maciel, je pense que c'est la meilleure illustration. C'est une plus-value, mais c'est pas leur force initiale. Si on a un arrière-gauche qui s'est vraiment monté, Broguillard, comme en début de saison, qui s'est monté, qu'on a un attaquant de pointe digne de ce nom, et qu'on a Kyoto et Urruti derrière lui, par exemple, avec aussi quelqu'un qui est un petit peu plus créatif au milieu, justement, là, à ce moment-là, Maciel, puisque c'est juste une plus-value, on en a besoin. Il y a beaucoup, 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 beaucoup plus d'options offensives que dans ce qu'on a maintenant, où à part les deux types devant, la plupart, leur côté offensif, c'est juste une plus-value, justement, et c'est pas leur force, comme, je sais pas, on va reprendre des exemples à Toronto, hein, des Osorio, des Piatti, des Pozzuelo, il y en a pas mal. Et regardez dans les autres clubs de MLS de pointe, les joueurs offensifs, ou les joueurs qui apportent quelque chose offensivement et à cette animation offensive, il y en a plus que dans le schéma qu'on a vu de l'impact jusqu'à présent, avec les joueurs qui sont dans la disponibilité de Thierry Henry, évidemment. On a cité beaucoup de noms maintenant, on a beaucoup parlé de tactique, mais il y a aussi une autre chose qu'on peut un petit peu évaluer, parce que cette saison se déroule en trois temps. Il y a eu le début de l'année, la longue pause, puis le tournoi à Orlando, et de nouveau un arrêt, et ces deux matchs au stade Saputo. J'aimerais savoir, parce que ça permet de faire un bilan de joueurs qui sont pas sur des élans, mais qui doivent chaque fois refaire leurs preuves à des moments différents, qui, selon vous, a été satisfaisant lors de ces trois phases, ou en tout cas lors de chacune d'elles où il a joué, parce que Maciel, forcément, il n'a pas joué au début, et qui, dans le même sens, a été décevant lors de chacune de ces trois phases.
Parmi les satisfactions, je t'en donnerai une par ligne, en fait, quasiment. Puisque bon, Diop a quand même fait le boulot dans les buts, même si des fois il a encore des petites choses qui nous font peur. Contre Vancouver, il nous a gratifié d'une sortie à une main complètement foirée, où Eric et moi, qui étions pas loin dans la tribune, on s'est regardé voilà, avec un air, comment dire, on se comprenait. Mais Diop a quand même fait le boulot. Binks, évidemment, derrière, ça, je pense que c'est la révélation, tout le monde est d'accord, et puis même Sabatini est d'accord. Au milieu du terrain, Maciel a fait des bonnes choses, mais c'est surtout Wanyama qui est ressorti, clairement. qui répond aux attentes d'entrée de jeu. C'est pas forcément facile, même pour un joueur désigné. Donc, il faut le signaler. Wanyama, son intégration et son apport, c'est quand même quelque chose de vraiment exceptionnel qui montre qu'il est vraiment un grand joueur, à mon sens. Et devant Kyoto, Kyoto est l'une des belles satisfactions devant, si on prend l'ensemble de la saison.
Ouais, ben c'est pas mal ça. Hein. C'est Diop, je suis pas 100% convaincu qu'il ait vraiment apporté de grandes choses. Mais pour le reste, ouais, je suis pas mal d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, celui qui s'illustre le plus, c'est évidemment Binks. Je pense que pour un joueur de 18 ans, on s'attendait pas vraiment à ça, quoi. On s'attendait à ce qu'il apprenne et puis à ce qu'il prenne son tour une fois de temps en temps dans la défense à trois, mais il s'est imposé comme le boss derrière. Et puis contre Toronto, il a été, à mon avis, ça a été son meilleur match cette saison. Donc très très fort. Et une des raisons pour lesquelles ce schéma-là a bien fonctionné d'ailleurs. Donc chapeau à Binks. C'est vrai que Wanyama et Kyoto, bah ça reste deux étoiles dans le firmament aussi, sans aucun doute. Mais pour moi, c'est vraiment Binks qui ressort du lot.
Et inversement, est-ce qu'il y en a qui vous ont déçu lors des trois phases?
Ouais, mais on n'a pas assez de temps.
Ah, bon. Bon, alors, oui, c'est vrai que en plus, on est déjà très 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 loin dans l'émission, mais il y a quand même quelque chose qui ressort. Allez, je vais prendre la liste d'Eric, j'ai enlevé Clément Diop, qui fait une bonne saison, certes, mais qui a... on va dire n'est pas extraordinaire, même s'il est bon, alors voilà. Que les autres sont vraiment ils ressortent beaucoup. Binks, Wanyama, Maciel, Kyoto, quatre joueurs arrivés cette saison. Est-ce que ça permet déjà de dresser un premier bilan du travail d'Olivier Renard, ou alors est-ce que finalement c'est pas dire un hasard, mais ça donne bien?
T'en as nommé combien? Quatre?
Oui.
Je pense qu'à un moment donné, c'est plus des coïncidences là. Les quatre types qui sont arrivés donnent de bons résultats. Je pense que le seul recrutement qui n'a pas vraiment porté fruit, c'est Saba, mais Saba a été blessé, donc on l'a pas vraiment vu. Bah oui, je pense que on sent que le travail était bien fait, quoi. Donc c'est des types qui sont venus ici, qui répondent à des besoins. Et puis quand des types arrivent et répondent à des besoins, c'est rare qu'ils ne répondent pas à la demande, quoi. Donc c'est logiquement, quand tu recrutes, c'est pour des joueurs que tu mets dans ton 11. Et puis, ben, quand ils sont dans le 11, ben, normalement, si t'as bien fait ton travail, ils doivent apporter quelque chose directement. Puis, ben, c'est ça qu'on voit.
Exactement. Là, le nombre fait qu'on peut pas, mettre ça sur le dos du hasard ou de la coïncidence. En plus, ce sont des joueurs qui apportaient quelque chose de différent dans l'effectif, clairement, puisque Maciel et Gaucher, on l'a entendu, etc. Wanyama, une projection pour un milieu défensif qui était très intéressante et qui était inexistante ou très peu existante à l'Impact. Binks, c'était un jeune défenseur en plein développement, alors qu'on avait Rudy Camacho qui est quand même qui est dans la trentaine ou qui s'en approche. On a Rod Fanny qui est en fin de carrière. Je veux dire, tous ces recrutements sont pensés à 100% et répondent aux besoins qui étaient finalement là sous notre nez. Donc on peut évidemment donner l'entier crédit à Olivier Renard, parce que c'est on touche presque un 100% et un mercato presque 100% réussi, c'est vraiment très exceptionnel. Même dans les très 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 grands clubs, il y a toujours des ratés. Donc c'est quand même vraiment notable cette direction sportive. On a longtemps décrié l'absence de direction sportive à l'Impact et des recrutements via des réseaux pas toujours super stabilisés ou pas toujours des bons tuyaux, on va dire. Donc parce qu'il y en a eu quand même des mouvements, il y en a eu beaucoup à l'Impact et il n'y a pas eu que des mouvements heureux. Là, on peut se dire quand même que les joueurs qui sont arrivés, c'est quand même autre chose. Donc c'est aussi pour ça, et j'en reviens à mon mot de la question en un mot à venir, parce que si on reste sur une dynamique comme celle-ci, évidemment, des mercato à 100%, il y en aura peut-être pas tous les ans non plus, hein. Il peut y avoir des ratés, et ça, il faudra pas non plus tomber sur Renard quand il y aura un coup dans l'eau. Mais ça montre quand même que les gens qui sont en place, et en l'occurrence Olivier Renard, sait ce qu'il fait et sait de quoi il parle, et a quand même le nez creux quand il s'agit de recruter. Donc laissons leur un petit peu le temps d'imprimer leur marque, et si ce qu'on a vu sur ce premier mercato se concrétise sur le long terme, ça peut vraiment être intéressant.
Faut pas oublier Joel Waterman non plus, qu'on a vu quand même en début de saison et qui avait apporté des choses intéressantes. Donc ça aussi, c'était un recrutement qui était quand même très prometteur, même si bon, c'est sûr que il y a quand même une courbe d'apprentissage à avoir de son côté, mais de ce qu'on avait vu de lui, c'était super positif. Donc après, ben voilà, c'est il faut retenir une chose, c'est que ben les gars qui ont été amenés pendant le mercato, c'est les gars dont on parle maintenant quand on parle de l'équipe. Donc ça, c'est une indication quand même assez claire que c'est réussi.
Et la capacité à recruter un joueur de complément est très intéressante aussi, parce que c'est nécessaire dans un effectif.
Exact.
Puis je rajouterais deux choses, j'allais en rajouter trois, mais Eric, tu as déjà parlé de Waterman, et Waterman allait me permettre justement de rajouter la seconde, c'est que ce sont des joueurs qui répondent aussi aux attentes, on va dire, du grand public par rapport à leur rapport à l'équipe, et qui font même beaucoup plus que ça. Parce que Waterman, personne se disait « Ah, il va être titulaire d'emblée ». Bon, tout le monde se demandait « Ah, est-ce qu'il va franchir le pas entre la CANPL et la MLS ?» On verra bien. Puis tout le monde a dit « Ah bah oui, tiens, il fait mieux que ce qui était prévu ». Maciel, un type obscur qui jouait à peine à San Lorenzo, qui était plutôt proche de l'équipe réserve que de l'équipe première. On se dit, ah ouais, ok, bon, bah, on a échangé Piatti, fallait bien faire un cadeau à San Lorenzo. J'exagère un petit peu, je caricature, mais je donne un peu la perception du grand public. Puis Maciel, on voit sur le terrain, et là, tout le monde dit, ah ouais, c'est quand même pas mal, hein, pour un joueur obscur dont on attendait pas grand-chose. C'est bien. Kyoto, de mon côté, j'en attendais vraiment beaucoup, parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup à Houston et que j'aime beaucoup avec l'équipe nationale du Honduras, et j'en suis extrêmement satisfait. Wanyama, c'est un joueur désigné dont on veut beaucoup aussi, puis jusqu'à présent, ça va bien, et je pense que ça va aller de mieux en mieux, parce que j'ai l'impression qu'il a encore besoin de trouver beaucoup d'automatisme, et aussi avec les changements de schéma, avec les reprises arrêt de saison et tout, il est très 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 loin d'avoir montré tout ce qu'il peut montrer ici à Montréal. Et Binks, bon, je pense que c'est même pas la peine d'en parler, puisque Binks, quand il est arrivé, tout le monde a dit d'où il sort, ah ouais, c'est sympa, un jeune de Tottenham, ouais, bon, bah, encore un jeune qui vient d'Europe, machin, on sait pas. Pff, encore une place d'étranger qui a été prise, un jeune du Québec, machin, ou un jeune local. Puis là, maintenant, Binks s'en va, ouais, il s'en va, c'est scandaleux, il faut le garder, quel joueur extraordinaire. Bon, on va pas revenir sur le débat de la semaine dernière, mais en tout cas, c'est un peu... un petit peu ça, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est la rapidité avec laquelle ça a été fait, parce que pour arriver à faire un mercato réussi, il fallait aussi, un, satisfaire aux demandes et aux besoins de l'équipe, et deux, aux caractéristiques du championnat dans lequel elle joue, pour que ces joueurs-là puissent s'illustrer et se mettre en valeur. Et quand il y a un entraîneur qui vient d'arriver, il y a un directeur sportif qui vient d'arriver, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire. Demandez à Vancouver et regardez leur mercato de l'année passée. Celui de cette année, on va donner un petit peu de bénéfice du doute avec le Covid et tout, mais bon, l'impact aussi, hein, est dans les mêmes conditions, et on ne parle pas de la même chose. Et à Vancouver, ils ont été chercher la quantité pour en faire ressortir quelques-uns. À Montréal, pas du tout, hein. Comme Quentin le disait tantôt, on est proche du 100%. Maintenant, je veux quand même dire que la note de Olivier Renard, pas dire qu'elle est pas satisfaisante, mais qu'il y a encore, il a pas fini de passer tous ses examens. Est-ce que pour moi, pour que ce soit la réussite totale, ça dépend des transferts entrants, mais aussi des transferts sortants. Et donc, à mes yeux, la prochaine étape pour que là on puisse dire Olivier Renard, c'est une réussite totale pour sa première saison, c'est de dégraisser cet effectif, et en plus de le faire évidemment avec toutes les particularités qu'a la MLS. De se débarrasser de quelques salaires qui sont trop lourds, ou de joueurs qui ne conviennent tout simplement pas à la façon dont l'Impact veut jouer, et aussi de trouver, parce que parfois il faut faire des échanges, des destinations pour eux, et d'avoir une contrepartie intéressante. ce qui, il faut quand même le reconnaître, était parfois une force de l'ancienne direction sportive, enfin d'une des anciennes directions sportives, parce qu'il y en a eu plusieurs.
Je suis 100% d'accord avec toi, Mathias, sur la nécessité et le fait qu'on doive juger Olivier Renard sur sa capacité à vendre. Je l'avais déjà signalé dans l'émission et ça c'est toujours autant d'actualité. Pour moi, il y en a deux. Il y en a deux qui prennent énormément de place sur la fiche de paye, on va dire, pour ce qu'ils apportent sur le terrain, c'est Camacho et c'est Urruti. Voilà, c'est les deux joueurs qui coûtent cher et qui ont un rapport qualité-prix élevé. Voilà, par contre, il faut quand même signaler quelque chose aux gens, c'est que trouver des portes de sortie à des joueurs, c'est déjà pas facile, mais trouver des portes de sortie à des joueurs qui ont un tel salaire, ça l'est encore moins. Évidemment, le soccer est quand même mondialisé, donc il y a des réseaux qui permettent d'exfiltrer certains joueurs plus ou moins facilement. C'est sûr que si on lorgne du côté du Moyen-Orient ou de la Chine, on pourra peut-être trouver une place à ces joueurs. Bah, je pense plus pour Camacho que pour Urruti, qui a quand même l'étiquette MLS dans le dos, alors que Camacho a quand même un profil plus international, on va dire, et qui peut peut-être intéresser plus de clubs. Mais c'est extrêmement difficile et au sein de la MLS, je vois pas quelle équipe va miser sur ces deux joueurs au salaire qu'ils prennent.
Et c'est pour ça que c'est plus facile à ce moment-là de monter d'un niveau dans la hiérarchie, puis d'aller peut-être se départir de joueurs qui ont un fort salaire, qui amènent quelque chose, mais qui n'en amènent pas assez. Et en ce sens, je pense que là-dessus, on tombe au niveau de Boyan et Taider, à mon avis. Pas que ce soit des mauvais joueurs, mais justement parce que c'est pas des mauvais joueurs, ils ont des choses à apporter. Est-ce qu'ils ont des choses à apporter à l'Impact de Montréal? Pas nécessairement. Oui, dans une certaine mesure, mais est-ce qu'ils ont plus à amener à d'autres équipes, que ce soit en MLS ou ailleurs, probablement plus ailleurs? Je pense que c'est là-dessus qu'il faut tabler, à mon avis. Parce que pour vendre des joueurs, il faut qu'il y ait des gens qui soient intéressés à les acheter. Donc, à ce moment-là, je pense que quand tu vends des joueurs, il faut pas que ce soit ceux qui portent le bonnet d'âme, disons-le comme ça. Hein. Donc, je pense que tout le monde est capable de voir ce que Urruti fait sur un terrain. Ça va être très, 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 très difficile de trouver un acheteur. Par contre, quand tu regardes ce que Taider amène sur un terrain, ben là, il peut y avoir des gens qui sont intéressés. Ce que Boyan amène sur un terrain, même chose. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport cette semaine, enfin des rumeurs dans un journal espagnol, je crois, qui disait que bah oui, il y avait de l'intérêt pour un éventuel retour de Boyan en Europe, qu'il y avait des clubs qui étaient intéressés à l'accueillir. Donc c'est la preuve que ça serait peut-être la solution, la piste à suivre pour dégraisser l'effectif et puis ajouter des éléments qui permettraient peut-être là, de faire monter tout le monde autour.
Ah, faudrait arriver à faire les deux, à mon sens, parce qu'on.
Ouais, forcément, mais je veux dire, est-ce que la priorité doit être mise sur les types qui sont tout simplement impossibles à vendre à l'heure qu'il est, ou est-ce qu'elle doit être mise sur dégraisser l'effectif?
Bah, à mon avis, il aurait fallu le vendre avant de partir à Orlando, c'était mon avis, quand il était meilleur buteur de MLS.
En fait, Urruti, il aurait jamais fallu aller le chercher, déjà.
Ça, c'est une grosse faute professionnelle, au moins, le transfert
d'Urruti. Oui, ça, c'est clair.
C'est catastrophique pour énormément de raisons. Et c'est dommage dans un sens, parce que Urruti, ce que tu disais tantôt avec le bon Enan et tout, je pense que Urruti peut convenir à certaines équipes, mais elles sont rares et il faut que ce soit dans des schémas bien spécifiques. À Philadelphie, par exemple, ils ont eu fait des changements dans la façon de jouer grâce à certains joueurs cette année, notamment à Aronson. Et ils ont été chercher, ils ont construit quelque chose depuis plusieurs années, ils ont trouvé leur style. Et grâce à ce style-là, maintenant, ils ont Pshibilko devant, ils ont Aronson qui est créatif, ils ont Montero qui est créatif. Et entre tout cela, ils peuvent aller foutre quelqu'un qui est un petit peu un faiseur de bordel et qui peut en plus marquer quand Pshibilko va un peu moins bien, comme on l'a vu en Floride, mais qui peut apporter une autre dynamique. Et je pense qu'un Urruti, justement, il conviendrait bien à ça. Et bon, bah, Philadelphie, ils ont trouvé leur joueur, donc c'est pas nécessaire, ils ont certainement pas besoin d'Urruti. C'est très rare, malheureusement, des équipes qui cherchent et qui ont besoin d'un tel joueur parce qu'il faut vraiment plusieurs années de travail en amont. Le problème, c'est que Urruti, c'est un gros pari, il rate beaucoup trop, et il a un salaire beaucoup trop élevé pour ce qu'il apporte, ouais. Et évidemment, avec les réalités de la MLS, ça complique énormément les choses, et c'est peut-être dans cette mesure-là aussi qu'aller chercher Urruti, c'est une double faute professionnelle. Un, aller le chercher parce qu'il convient pas du tout à ce dont l'Impact avait besoin, et à ce dont l'Impact a besoin maintenant et même pour le long terme. Et deux, je pense qu'en plus il a reçu une augmentation de salaire, et donc le chercher à ce prix-là, c'est que si jamais ça marche pas, un tel joueur, ben t'es coincé avec et il te coûte cher pendant longtemps, et il te complique ta vie évidemment dans ta convection du budget salarial. Et en plus, c'est mauvais et c'est triste pour lui parce que le garçon est en train de se faire une très mauvaise réputation sportive et professionnelle à Montréal. À cause, ben, on voit par exemple souvent lors des avant-matchs TSN, quand il y a un match de Montréal, je sais pas combien de fois en quelques semaines, ils ont montré la faiblesse des numéros 9 de l'Impact, puis ils ont montré le nombre de buts inscrits par Mancozu et Urruti. Ils ont fait, bah ouais, mais ça fait je sais pas combien de temps que l'Impact n'a pas d'attaquant de pointe qui marque des buts. Depuis Drogba, il n'y en a pas vraiment eu. C'est un problème. Et donc, forcément, c'est des choses qui tournent. Et Urruti, tout le monde regarde, tout le monde se dit, ah bah ouais, pourquoi pas, peut-être, mais à ce prix-là, non. Et donc là, le type est en train de se barrer, c'est néfaste pour sa carrière. Donc, c'est une double faute professionnelle, comme expliqué tantôt, et puis il y a une troisième faute qui est néfaste pour le joueur, et j'espère pour le garçon qui se sent bien à Montréal, qu'il est heureux ici, et que si jamais sa carrière n'avance pas, qu'il va trouver quelque chose qui lui convient, mais et qu'en attendant, il va se sentir bien. Mais bon, ça c'est. Je parlais d'Urruti, mais c'est vrai qu'il faut quand même trouver un moyen de dégraisser ces joueurs-là aussi, qui peuvent peut-être, mais peut-être pas, parce que c'est quand même des joueurs comme Urruti, ils jouent quand même régulièrement. Après, je suis étonné, Eric, que tu n'aies pas parlé d'Evan Bush, qui est quand même un salaire assez important et qui est sur le banc.
C'est parce que je me dis que moins on en parle, moins il y a de chances qu'il revienne dans l'équation. Voilà.
Ok. Non, mais bon, après Evan Bush, il y a peut-être moyen à un moment donné de lui trouver quelque chose d'intéressant, évidemment, pour le moment.
C'est ça. Ouais.
Mais comme employé du club à d'autres niveaux, je pense qu'il est heureux ici et qu'il a certainement des compétences qui peuvent aider le club en dehors du terrain. Mais évidemment, il faut qu'il ait envie d'arrêter sa carrière aussi. On va pas lui donner un coup de pied au cul et le forcer à la retraite. Ce que je veux dire, c'est que pour lui, il y a peut-être davantage de solutions, mais c'est vrai que il y a quand même pas mal de gros salaires qui ne viennent pas de l'ère d'Olivier Renard, et dont il doit trouver le moyen de se délester. Et ça, ça reste important, parce que c'est, on va dire, mauvais pour tout le monde, pour l'équipe et pour les joueurs en question, parce que je pense que malheureusement, en MLS, une bonne partie du public évalue le joueur par rapport au salaire qu'il gagne. Et que quand un joueur reçoit un gros salaire, il y a des attentes bien plus grandes envers lui, et il se fait bien plus facilement critiquer, alors que peut-être dès le départ il n'avait pas forcément le niveau qui méritait ce salaire-là. Et donc c'est pas bon pour leur carrière non plus.
Oui et non, parce que Urruti, une fois qu'il sera au bout de son contrat, évidemment, il a signé le contrat de sa vie à Montréal. Je veux dire, il gagne normalement ce qu'il n'aurait jamais dû obtenir. Tu l'as souligné, Mathias. Par contre, c'est ça, une fois que les négociations pour ouvrir un contrat vont arriver, c'est sûr qu'il reverra sans doute son salaire à la baisse. Mais par contre, il peut, comme tu le disais, être utile à certaines équipes. Mais tant qu'il gagne ce qu'il gagne en ce moment, là, ça, c'est quasiment mission impossible de lui trouver une porte de sortie.
Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ceux qui ont une valeur et pour lesquels il y a de l'intérêt. Donc, tu parlais de se délester des joueurs qui ne sont pas de l'ère Olivier Renard, Taider et Boyan en sont deux. Donc,
Moi, je serais plus sur Bojan. Je suis d'accord à 100%. Je pense que ça ouvrirait des perspectives à tout le monde. Parce que Bojan pourrait se relancer, certes une énième fois, mais de toute façon là, il en est là. Et pour l'Impact, ça libérerait beaucoup d'espace sur la masse salariale. Taider, je trouve qu'il a quand même un apport intéressant et donc c'est quand même une valeur ajoutée pour moi à l'Impact. Je suis plus mitigé sur la nécessité de s'en départir pour.
Je suis tout à fait d'accord qu'il apporte quelque chose. C'est pas un gros nul, hein, loin de là. Mais est-ce qu'il en amène assez? Moi, je suis pas convaincu. Et je suis pas convaincu depuis qu'il est arrivé. Donc après, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que cet argent-là qu'on lui donne pourrait servir à amener des joueurs beaucoup plus efficaces, à mon avis.
Ouais, après, il faut le faire en même temps, en ce moment-là, parce que autant tu peux laisser partir Urruti, Bojan ou Camacho, puis dire, bon, écoute, on a d'autres options dans l'équipe. Autant Taider, c'est comme si on avait dit il y a quelque temps, on laisse partir Piet avant de faire venir Wanyama. Donc pour faire un parallèle, c'est que il faut trouver ce que Wanyama est à Piet pour Taider avant de dire à Taider, ok, merci, au revoir. Parce que moi je trouve que oui, Taider. Taider, il est pas spectaculaire, il en apporte pas assez parce que il apporte beaucoup de petites choses. C'est plus plein de petits ruisseaux qu'une grande rivière, Taider. C'est pour ça que c'est peut-être un peu plus difficile de le complimenter, mais moi je suis pas si dur que ça envers Taider. Je trouve que il apporte des choses. Maintenant, il faut le truc, c'est qu'il a tellement joué au pompier de service un peu partout. Lui aussi, hein, peut-être qu'avec plus de stabilité, il pourrait apporter davantage. Mais bon, ça c'est encore un autre débat, et on a eu énormément de débats, et il nous en reste un à avoir, c'est celui du coup franc de la semaine, qui est extra sportif, mais qui concerne les matchs, puisque plusieurs rencontres de MLS ont été reportées en osmose avec ce qui s'est fait dans certains autres sports, à commencer par le basketball, suite aux troubles sociaux aux États-Unis. Il y a des problèmes envers la communauté noire qui se répète malgré les manifestations, et évidemment on sait que il y a beaucoup de monde qui veut du changement, dont beaucoup de monde en MLS, hein, vous le voyez avec les genoux à terre avant chaque match, ou même pendant certains matchs. On se souvient de Thierry Henry lors du match d'ouverture de l'Impact au tournoi MLS Is Back, et le mouvement aussi Black Players for Change. Donc, messieurs, je voulais savoir si cette étape de plus franchie dans la protestation, à vos yeux, est un coup franc, comme d'habitude, droit dans le mur, pleine lucarne, ou autre chose.
Pour moi, c'est une source d'inquiétude, toutes ces choses. Évidemment, les événements qui se déroulent, la mort des gens, les manifestations qui dégénèrent, tout ça, c'est et le fait que ça se déplace sur les terrains de sport, mais ça c'est normal aussi. Je veux dire, le sport est partie intégrante de la société, donc et à certains égards a un rôle justement à jouer dans certaines situations. Et le sport l'a déjà fait, évidemment. On peut penser à Jesse Owens, on peut penser à Jackie Robinson, on peut penser à plein de choses qui sont des gens qui sont devenus des icônes et qui ont fait avancer les mentalités dans différents contextes, différentes histoires et par différentes choses. Après, moi, ce qui m'inquiète évidemment, c'est que il faut pas oublier qu'on est dans une année électorale aux États-Unis et que je suis pas convaincu que le locataire actuel de la Maison Blanche se soucie vraiment de la mort des gens par les policiers. Au contraire, j'ai même la grande crainte que son cynisme va jusqu'à se dire que c'est bon pour lui. Donc, c'est plus le contexte au complet qui m'inquiète, et évidemment l'illustration que ça se déroule, voilà, l'illustration que nous présente le sport participe un peu à cette anxiété. Après, je suis tout à fait partisan du fait que il faut manifester, surtout si c'est comme ça, parce que ce sont des manifestations pacifique. Donc je te dirais, dans ce cadre-là, c'est un coup franc en pleine lucarne. Le problème, le revers de la médaille, c'est que au sein même du sport, comme c'est une dimension politique, il y a des scissions qui se font. Regardez les réactions autour de Bradley, qui est resté debout pendant l'hymne national. Alors à un moment, les quelques secondes avant l'engagement, là, il a posé le genou à terre, mais ça a été choquant pour beaucoup de monde. Et c'est une nouvelle fois révélateur de la sensibilité de toutes ces questions-là et de tout ce à quoi ça renvoie. Donc il faut quand même à certains égards veiller. Parce que des réactions comme Bradley, d'ailleurs Bradley s'est fait insulter ensuite copieusement par les quelques spectateurs présents, puis je peux vous dire qu'ils n'étaient pas nombreux, mais qu'on les entendait à l'autre bout du stade. Donc oui, c'est un coup franc dans la lucarne, mais dans un contexte qui va complètement dans le mur.
Ben, de mon côté, c'est un coup franc en pleine lucarne aussi, et je vais m'expliquer. Bon, c'est pas seulement par des avis personnels que je trouve le combat évidemment contre le racisme nécessaire et très utile, mais aucun de nous trois ne vivons aux États-Unis, ne connaissons le contexte, et pas toujours facile de parler pour les autres. C'est vrai que j'ai choisi ce coup franc, je sais que c'est un peu une savonnette et que ça peut être casse-gueule. De mon côté, je l'envoie en pleine lucarne aussi parce que je trouve que souvent ce que je vais dire, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être polémique si des gens veulent en parler de vive voix avec moi et débattre longtemps. J'ai aucun problème avec ça, mais il faut que j'explique en détail si je veux aller plus loin. Mais je trouve que souvent ce genre de manifestation est contre-productive et peut en fait desservir les intérêts qu'elles veulent défendre. Et je trouve que justement dans ce cas-là, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et que c'est des choses qui sont bien pensées, qui sont dans la bonne direction, qui conviennent aussi au contexte, puisque le contexte, par exemple, du racisme aux États-Unis n'est pas du tout le même contexte et les mêmes origines, les mêmes sources que, par exemple, le racisme dans les stades en Europe. Et les doubles explications qu'on a eues pour cette journée, c'est bon, évidemment, il y a l'accumulation et le ras-le-bol, mais aussi on lit, on entend beaucoup le fait que il faut pas banaliser le genou à terre, parce que là, ah oui, c'est bon, tout le monde met un genou à terre, puis à un moment donné ça va devenir banal. Donc il fallait faire quelque chose qui sort du lot pour montrer, et de nouveau, comme Quentin en a parlé tout à l'heure, ce sont des manifestations pacifiques, et il y a même pas beaucoup de messages qui sont envoyés. Et la deuxième chose, justement, c'est un des rares messages qui a été envoyé, des messages qui sont pas des messages comme tout à l'heure je disais que parfois les trucs sont contre-productifs, parce que les gens qu'on veut conscientiser, parfois eux ils ont l'impression qu'on leur fait la leçon, puis ça va mal. Puis là, un des messages qui a été envoyé, qui est beaucoup ressorti, notamment des joueurs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, c'était: une vie humaine est plus importante qu'un match de foot ou de basket, ou en tout cas qu'un événement sportif. Et c'est ça qu'on veut mettre de l'avant par notre manifestation pacifique aujourd'hui. Et à ça, y a personne qui peut dire: ah, on me fait la leçon. C'est comme: ah oui, ça prête à réfléchir, ça prête à tout le monde à réfléchir. Donc je pense que la façon dont ça a été fait, la façon dont ça a été exprimé concrètement, et la façon dont ça a été exprimé par les mots et par la communication, a été très réussi. Mais comme Quentin, évidemment, je trouve que le contexte est très 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 difficile. Puis il faut espérer évidemment que l'unité revienne. Je vais passer un message de paix, d'amour et d'harmonie qu'on veut évidemment partout, et que les choses avancent dans la bonne direction, que chacun se sente le bienvenu et bien entouré de la part des autres. Mais là, je commence à m'éloigner du sujet. En tout cas, vous avez compris pourquoi mon plein Lucas.
Je vais être bref parce que vous avez pas mal tout dit, je pense, sur le sujet. Donc, pour moi aussi, c'est un coup franc en pleine lucarne. Parce que 8 minutes et 46 secondes, c'est beaucoup trop long. Parce que cette balle dans le dos, c'est beaucoup trop.
Ouais, et puis, Eric, j'espère qu'il n'y aura pas de suite à cette liste qui, dans tes mots, était très courte, mais qui était malheureusement la fin d'une très 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 longue liste, qui est beaucoup plus longue à énumérer que les joueurs qui ne portent pas satisfaction à l'Impact pour le moment. N'oublions pas qu'à cette émission, avant tout, parle de foot, de terrain, mais la réalité de la MLS, c'était ça aussi cette semaine, donc nous devions, je pense, d'en parler. On espère que tout ce qu'on a dit pendant cette très longueur d'émission, peut-être même beaucoup plus, vous a plu, vous a intéressé. Là, ben, vous avez peut-être été au stade, ou en tout cas, vous avez certainement vu au moins un ou deux matchs de Montréal. Le foot, l'animation revient, l'équipe est revenue à domicile. Donc, on avait envie aussi d'en faire une plus longue et puis de vous replonger dans le foot et puis de rester là-dedans, puis de dire oui, bah là, ça y est, c'est reparti, la nouvelle phase est là, on l'a vu, c'est concret, et un coup franc un petit peu spécial, un petit peu plus détaillé était de mise, donc on espère qu'il vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine après encore de nouvelles aventures.
Dans la joie et la bonne humeur.